partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec à mes côtés ce matin Alexandre Buicange. Bonjour Alexandre.
Bonjour Jacqueline.
Merci de m'accompagner doublement ce matin, à la fois en tant qu'animateur pour cette édition spéciale de l'économie en direct, mais aussi de m'accompagner exceptionnellement pour la technique dans ce nouveau numéro donc de l'économie en direct. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur IDFM Radio, la radio valdoisienne que vous pouvez écouter en FM, web radio, DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous. Ce matin, l'économie en direct, nous vous proposons donc une édition spéciale. Spéciale car consacrée au Val d'Oise, territoire d'expérimentation pour la mise en place de dispositifs en matière de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Sujet régulièrement abordé dans cette émission, mais pour lequel aujourd'hui, dans une interview exclusive accordée à IDFM Radio, nous avons pu recueillir il y a quelques jours les propos de Madame Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Une interview possible grâce à l'intervention de Madame la députée de la première circonscription du Val d'Oise, Émilie Chandler, avec nous en ce moment dans nos studios. Bonjour Madame la députée.
Bonjour.
Bienvenue et merci pour votre présence chez IDFM Radio malgré un agenda ultra chargé. Madame la députée, il nous a paru légitime, Alexandre et moi-même, de vous accorder la parole pour accompagner cette interview de Madame la ministre. Une interview que nous écoutons à présent. Bonjour Madame Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité, de l'égalité des chances. Merci de nous accueillir en vos locaux, rue Saint-Dominique, Alexandre Buicange et moi-même, et d'accorder cet entretien à notre média valdoisien IDFM Radio. Madame la ministre, lors de son premier quinquennat, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause de ce quinquennat. Or, malgré les lois votées ces dernières années, les grenelles des violences conjugales, les alertes des associations féministes, le phénomène ne faiblit pas. Comment l'expliquez-vous ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, cette égalité entre les femmes et les hommes a été la grande cause du quinquennat, donc de 2017 à 2022, et est de nouveau la grande cause du nouveau quinquennat du président de la République. Vous le dites, ces violences ne diminuent pas et pourtant beaucoup a été fait au cours de ces dernières années, notamment vous avez rappelé l'existence de ce Grenelle des violences conjugales donc organisé par le gouvernement en 2019 et je pense que de manière très objective, beaucoup a été fait, hein, qu'il s'agisse du renforcement, de la protection des victimes, avec par exemple la mise en place du bracelet anti-rapprochement, oui, la multiplication des téléphones grave danger. Nous avons aussi multiplié considérablement le nombre de places d'hébergement d'urgence. Plus 80% de places d'hébergement d'urgence. On en a 10 000 aujourd'hui, on en aura 11 000 fin 2023. Je voudrais aussi parler, parce que c'est important, de la formation massive des policiers et des gendarmes. 160 000 policiers et gendarmes formés. La mise en place aussi de travailleurs sociaux dans les commissariats et les gendarmeries. On en a à peu près 450 aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur en annonce 600 pour 2025. Et ça, c'est vraiment important, cette présence est importante, puisque ces travailleurs sociaux permettent de mieux accueillir les victimes dans les commissariats, les gendarmeries. On pourrait aussi parler des gendarmeries, justement, qui ont mis en place des maisons de protection de la famille avec des gendarmes spécialisés. Je pourrais être très longue.
Oui.
Et j'allais dire, malheureusement, on voit que ces violences subsistent. Et donc, il y a deux choses. Cela signifie qu'il ne faut jamais relâcher la pression, qu'il faut peut-être aller plus loin encore, et je pourrais vous expliquer un petit peu les projets que nous avons. Et puis aussi, c'est un autre chantier à mon avis qu'il faut ouvrir et que j'ai souhaité lancer, c'est aussi qu'il faut agir en amont pour effectivement éviter ces passages à l'acte. Il faut bien sûr protéger, sanctionner, prévenir la récidive, mais il faut aussi éviter la violence. Donc je pense qu'on doit travailler dans toutes ces directions.
C'est très, très important. Ces passages à l'acte, je voudrais juste ajouter, on est aujourd'hui à 38 féminicides depuis le début de l'année, des passages à l'acte dont on a le sentiment qu'on ne peut rien faire contre.
Alors, ce qu'on voit, c'est que dans l'immense majorité, effectivement, de ces meurtres, il n'y avait pas eu de signaux d'alerte. Voilà. Et en revanche, c'est pour ça que j'ai souhaité lancer un nouveau dispositif, donc ce pack Nouveau Départ. Ce que j'ai pu constater tout au long de mes années de carrière, de magistrate et notamment de présidente de cour d'assises, et donc j'ai jugé malheureusement de nombreux féminicides et de viols, c'est que il n'y a pas forcément de signaux d'alerte à destination de la police, de la gendarmerie, de la justice, mais que les femmes, quand elles sont dans une situation de violence comme celle qui peuvent mener justement au meurtre, eh bien elles sont tout à fait détruites psychologiquement après des années de harcèlement, de dévalorisation, de menaces, de violences psychologiques, voire physiques, et que c'est très compliqué pour elles de s'extraire de cette relation. Et c'est pour cela que j'ai voulu créer ce pack Nouveau Départ.
Tout à fait, ce pack que vous avez lancé le 3 mars dernier, donc avec une diffusion déjà sur le site du ministère, justement de ce pack Nouveau Départ. Et en fait, ce que je voulais savoir, c'est en quoi il consistait, puisqu'à l'époque, on était sur le terme de l'annonce de ce pack. Le 8 mars, si ma mémoire est bonne, sur BFM, vous avez abordé les contours. Aujourd'hui, nous sommes mi-avril. Qu'en est-il et en quoi consiste-t-il ?
Alors, c'est un dispositif qui a pour vocation justement d'accompagner matériellement ces femmes qui sont dans une situation de grande vulnérabilité et de leur permettre d'avoir une sorte d'autonomie, justement. Parce que si elles doivent avoir des difficultés matérielles alors qu'elles sont déjà complètement annihilées sur le plan psychologique, c'est l'enfer. Et donc, l'idée, c'est que quand elles vont s'adresser à une association ou à un maire d'une commune ou à un avocat ou à un policier, un gendarme. En fait, il n'y a pas de liste exhaustive de personnes auxquelles elles peuvent s'adresser. Eh bien, ce signalant va pouvoir, bien sûr, si elle le souhaite, saisir un opérateur unique, c'est-à-dire la caisse d'allocation familiale, qui va pouvoir déclencher pour elle, sans qu'elle ait justement à se soucier d'aller frapper à toutes les portes, les mesures dont elle a besoin. Et donc, ils peuvent varier effectivement selon sa propre situation. Et donc, cela peut être le déclenchement d'une allocation type RSA. Cela peut être cumulatif, cela peut être donc un accompagnement psychologique, cela peut être une aide au retour à l'emploi ou à une formation, un système coupe-fil pour la garde d'enfants et si besoin, un hébergement d'urgence. Mais je précise que le pack Nouveau Départ n'est pas conditionné au départ de la dame de son domicile.
Oui, c'est important de préciser.
Parce que ça a été parfois mal compris, parce que ce pack peut s'appliquer, même si elle reste au domicile et que c'est le conjoint qui est écarté du domicile par le juge. Parce que c'est pas parce qu'elle va rester à son domicile qu'elle n'aura pas besoin d'une allocation ou qu'elle de retrouver un emploi, etc. Donc je précise bien que c'est dans les deux situations, mais pour moi c'était important de ne pas faire reposer le pacte nouveau départ sur une décision de justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir déposé plainte, il n'y a pas besoin d'avoir une ordonnance de protection. Non, le point de départ, c'est un signalement par un professionnel, par une association, qui va donc saisir la CAF. Voilà, c'est que ça soit bien clair.
Donc en fait, c'est une espèce de signal d'alarme qu'on tire, et puis en fait, ça enclenche tout un processus.
Voilà, tout à fait. Voilà, en fonction, bien sûr, de ses besoins. Et donc, comme c'est un dispositif que je souhaite vraiment le plus adapté possible aux besoins de la victime, il s'agit, on ne pouvait pas le mettre en place d'un claquement de doigts en disant ça va se mettre partout en place sur le territoire national. Et c'est pourquoi donc j'ai pensé qu'il fallait aller le déployer de manière progressive, en commençant par des territoires pilotes et le Val d'Oise est le premier territoire justement pilote à accueillir donc la mise en place de ce pacte nouveau départ. J'ai lancé il y a une semaine à peu près l'expérimentation aussi sur l'île de la Réunion, parce que je trouvais que c'était important aussi d'envoyer un signal à nos amis
d'outre-mer.
Oui, et puis là, je vais lancer dans quelques jours aussi l'expérimentation sur 3 autres territoires. Et puis ensuite, on aura une généralisation d'ici 2025. Et en fait, pendant cette phase de 12 semaines qui va se passer donc dans le Val d'Oise, nous sommes accompagnés par la délégation interministérielle à la transformation publique qui se rend donc, peut-être pas tous les jours, mais très souvent sur place justement pour aider les différents acteurs locaux à bien se coordonner, à mettre en place le dispositif. Ce qui est très important aussi, si on veut que ça marche bien, c'est que justement le plus possible de professionnels puissent connaître le dispositif pour qu'ils pensent à le proposer et puis donc à saisir la CAF. Donc on voit bien que cela nécessite un certain travail de mise en place. C'est pourquoi je pense que c'est bien de procéder comme ça par étapes. On va travailler sur le process et puis après, j'allais dire, ça ira, je pense, de plus en plus facilement selon les territoires. Mais là, je pense qu'il faut vraiment l'adapter le mieux possible. Voilà.
Très bien.
Alors, on a bien compris que vous aviez envisagé plusieurs solutions. Dans le cas où certaines femmes n'auraient pas de compte en banque, ont seulement un compte commun avec le conjoint ou ne savent pas lire ou écrire, avez-vous envisagé des solutions ?
Alors, j'allais dire, c'est vrai que il faut pouvoir répondre à toutes les situations. Donc, je pense que les solutions, elles vont aussi, être trouvées, j'allais dire, au fil du temps. Hein.
Oui,
c'est vrai qu'on peut imaginer des réponses. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas peut-être tout inscrire, mais on peut imaginer qu'on puisse, donner de l'argent liquide, mais très vite ouvrir un compte personnel. Enfin, voilà, je pense qu'on a des solutions. Et votre question aussi me permet de vous indiquer que par ailleurs, indépendamment de ce dispositif PAC Nouveau Départ, mais qui peut quand même s'inscrire aussi dans le cadre, nous avons aussi voté une loi qui valide donc l'existence d'une aide universelle d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sénatrice Valérie Létard qui avait fait une proposition de loi d'aide universelle d'urgence sous forme de prêt pour justement des femmes qui souhaitent avoir une aide d'urgence en cas de danger. Donc cette loi a fait l'objet du débat parlementaire et moi, lors de ce débat parlementaire, j'ai porté au nom du gouvernement un amendement pour permettre que cette aide puisse non seulement être un prêt, mais aussi un don non remboursable. Et finalement, c'est ce qui a été adopté. Et donc, nous aurons cette aide universelle d'urgence, d'extrême urgence, en fait, qui pourra être débloquée dans les 72 heures également par la CAF et qui permettra, là, pour le coup, ça peut être l'achat de billets de train, de nuit d'hôtel, etc. Oui. Voilà. Oui. Et nous devons sortir le décret. Donc, c'était dans les 9 mois, donc ça doit faire maintenant dans 7 mois à peu près, le décret d'application, justement, justement pour que cette aide soit effective dans 7 mois environ. Voilà.
On a une idée d'un plafond, il y a quelque chose qui a déjà été arrêté.
C'est un peu, là, je ne peux pas trop vous dire parce que nous sommes en pleine discussion interministérielle, donc voilà, on aura des arbitrages voilà, sur ce point. Mais nous tiendrons les délais en revanche. Voilà.
Très bien.
Madame la ministre, je vous propose de faire une pause avant de continuer cette interview.
Et dans la mesure où IDFM Radio est une radio musicale, et que je sais, Madame la Ministre, que vous êtes une fine mélomane, quelle chanson allez-vous proposer à nos auditeurs ?
Je pourrais choisir entre la Tosca par la Talala Calas, parce que j'écoute en boucle, ou Bella Ciao, voilà, qui est aussi ma chanson préférée.
Bon, donc, je vous propose que nos auditeurs partagent avec vous Bella Ciao.
Allez, très bien.
Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao. No, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior è questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà.
IDFM Radio, l'économie en direct, nous sommes dans les locaux de rue Saint-Dominique de Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité, de l'égalité des chances. Madame la ministre, nous avons évoqué avec vous ce nouveau dispositif, le PAC Nouveau Départ, donc, qui va être expérimenté pendant 12 semaines. Après cette période de 12 semaines, nous pouvons supposer qu'un bilan sera établi. Et comment sera envisagée la suite ou peut-être le retrait de ce PAC y avez-vous pensé ?
Alors, ce PAC a pour vocation à être déployé. On emploie le terme d'expérimentation, mais j'allais dire que c'est plutôt déploiement progressif, mise en place progressive. En revanche, comme je vous l'indiquais, nous sommes accompagnés en permanence par la délégation interministérielle à la transformation publique, donc qui travaille, j'allais dire, en live. D'accord. Sur l'adaptation du dispositif. Et par ailleurs aussi, j'ai souhaité qu'une recherche-action puisse être menée sur l'ensemble, alors pas que dans le Val-d'Oise, mais sur l'ensemble donc du déploiement, justement pour que nous ayons aussi un travail plus en finesse en termes d'évaluation qui soit fait. Vous voyez, pas seulement l'adaptation, mais l'évaluation. Et donc, cette recherche va démarrer prochainement. Voilà. Et puis donc après les 12 semaines, bah, dans le Val d'Oise, normalement, généralisation. Hein, voilà.
Oui. Le Val d'Oise qui avait été pilote aussi pour le bracelet.
Pour le bracelet anti-rapprochement, tout à fait.
Oui. Formidable Val d'Oise de toute façon.
Oui, d'ailleurs, je dois dire que, outre sa proximité avec Paris, qui a été aussi un des critères de choix, le fait qu'il y ait aussi cette mobilisation que je connaissais de l'ensemble des professionnels, cette mobilisation que je connaissais a été aussi un des critères qui a fait que nous avons choisi le Val d'Oise. Voilà.
Ah bien, mais nous en sommes ravis.
Voilà, mais je voulais vous le dire, puisque je sais que les Val-d'Oisiens nous écoutent.
Absolument.
Voilà.
Je voulais évoquer avec vous la question, justement, on l'a abordée en introduction, la protection des victimes. Dans le cadre de ce PAC Nouveau Départ, donc, qui est, comme je l'ai noté, la possibilité, en fait, vous l'avez indiqué dans une de vos déclarations, c'est partir avant qu'il ne soit trop tard. Même si ce n'est pas partir forcément du domicile, je précise, hein, mais c'est en gros, c'est surtout, je retiens, avant qu'il ne soit trop tard. La suite pour la victime, dans son parcours finalement, c'est un parcours en fait qu'elle va devoir cheminer entre une situation d'urgence, un hébergement, la question des enfants que vous avez évoqués, peut-être même un parcours judiciaire. Est-ce que il y a un interlocuteur qui l'accompagnera systématiquement? Comment est-ce que ça se passera pour elle? Parce qu'on sait qu'au niveau des professionnels, les avocats ou même les policiers parfois sont complètement démunis face au désarroi des victimes de violences intrafamiliales ou conjugales ou pire.
Alors le PAC Nouveau Départ, j'aime bien dire que c'est un peu pour éviter les faux départs. Voilà. Puisqu'on sait que parfois il faut plusieurs allers-retours afin de pouvoir enfin se dégager de cette relation complètement toxique et mortifère. Donc c'est pour éviter tous ces faux départs au cours desquels justement l'irréparable peut être commis. Alors l'idée, c'est vraiment que ça soit le plus adapté possible à la victime et de lui permettre justement une autonomie progressive. C'est-à-dire que si, par exemple, elle va avoir un hébergement d'urgence, l'idée, c'est de pouvoir l'amener le plus rapidement possible vers un logement. Et vous voyez, par exemple, sur ce plan, nous avons aussi développé, après le Grenelle des violences conjugales, ce qu'on appelle la garantie visale, qui permet donc à la victime de recevoir une caution, enfin d'avoir une caution qui est assurée par l'État. Donc, vous voyez, c'est une aide justement au logement pour qu'elle puisse avoir un vrai logement et plus un hébergement d'urgence. C'est un peu la remettre sur la remettre ou la mettre sur des rails si elle a été exclue vraiment du monde de l'emploi du fait de son conjoint. Hein, parce que moi, malheureusement, des cas que j'ai pu voir, ben parfois l'isolement de la victime, il va aussi jusqu'à lui faire perdre son emploi, lui faire quitter son emploi. Et donc, c'est la remettre aussi là-dessus, c'est-à-dire éventuellement qu'elle fasse une formation et puis après qu'elle se remette dans le circuit de l'emploi. C'est vraiment comme un sas un peu de transition, d'accompagnement renforcé, donc avec un accompagnement psychologique, mais aussi... alors là, ça va dépendre effectivement du tissu local. Et selon les territoires, ça peut être telle ou telle association qui va plus porter un accompagnement. Il y a des grands réseaux associatifs que je ne nommerai pas, mais voilà, qui sont très actifs et qui peuvent tout à fait assurer ce suivi. Il y a aussi, et c'est une mesure aussi que nous allons déployer, des structures qu'on appelle maison des femmes ou type maison des femmes, c'est-à-dire qui sont des structures de prise en charge globale des victimes. Donc c'est à la fois une prise en charge médicale, psychologique, sociale, voire aussi juridique, qui peuvent aussi accompagner cette victime, sachant que ces structures-là, nous allons en installer une au moins par département. Voilà.
Très bien.
Donc en fait, vous voyez, selon l'existant, parce qu'en fait, l'idée, c'est de s'inscrire le mieux possible dans le paysage local tel qu'il existe sur les territoires et au vu des acteurs existants, eh bien, j'allais dire, faire du cousu humain pour chaque victime.
Oui, l'important, c'est que la victime sache qu'elle peut avoir un recours en cas d'extrême difficulté.
C'est ça. Ouais.
Dans le prolongement de la question d'Alexandre Bucan, La première ministre, Madame Elisabeth Borne, avait annoncé la mise en place de pôles spécialisés dans les violences conjugales au sein des tribunaux afin de répondre aux problématiques vécues par les femmes victimes.
Oui, dès le 8 mars, donc lors de l'annonce de notre plan égalité femmes-hommes, la première ministre donc a acté donc la création de pôles spécialisés dans les tribunaux, ce que je souhaite depuis longtemps, et je tiens là à souligner le travail remarquable qui est fait par les deux parlementaires, dont l'une des parlementaires est députée du Val d'Oise, Émilie Chandler, et l'autre parlementaire, c'est une sénatrice, Dominique Vérien, et donc ces deux parlementaires ont effectué une mission donc à la demande de la première ministre. Elles vont remettre leur rapport dans quelques jours, mais d'ores et déjà, enfin justement sur la mise en place d'une justice spécialisée, mais d'ores et déjà, la Première ministre a souhaité, à la lecture de leur pré-rapport, faire acter dans le plan égalité femmes-hommes la création de pôles spécialisés dans les tribunaux. Elle a souhaité aussi faire acter la possibilité d'instaurer une ordonnance de protection immédiate dans les 24 heures et aussi le renforcement des formations des magistrats. Voilà déjà ce qu'elle a souhaité faire acter et qui figure dans les préconisations du rapport des deux parlementaires.
Donc, ce qui veut dire aussi que ça va être de nouveaux magistrats vont être recrutés probablement.
Alors justement là, il y a un véritable enjeu. Je rappelle que les violences intrafamiliales représentent plus de 30% des affaires qui sont jugées par les tribunaux. Nous savons, c'est une opportunité historique, que 1500 magistrats vont être recrutés sur les 5 ans, des greffiers, des assistants de justice. Eh bien, là maintenant, l'enjeu, c'est qu'on ait aussi des moyens qui puissent être mis à disposition des tribunaux pour que ces pôles-là fonctionnent le mieux possible. Voilà.
Je voulais revenir sur un point par rapport aux victimes. Ça concerne les tiers. Parce qu'on sait que psychologiquement, une victime ne sait pas forcément qu'elle est victime, surtout lorsqu'on a affaire à un pervers narcissique. C'est le phénomène qu'on retient souvent. La question que je me posais par rapport au PAC, est-ce qu'un tiers peut faire un signalement et faire déclencher ce PAC ?
Alors, je pense que... c'est une question.
C'est une question
voilà, c'est ça.
Par Alors, rapport aux victimes.
C'est une question tout à fait, pertinente. Alors, évidemment qu'on va y répondre après sur le terrain. Mm-hmm. Mais, a priori, je pense que le tiers peut très bien faire un signalement. Mais qu'ensuite, il faut que, justement, embarquer la victime. Voilà. Parce qu'on ne peut pas agir malgré elle. Voilà. Donc, en fait, le tiers peut signaler... après, à l'association, à la gendarmerie, enfin bon, à l'interlocuteur à qui il aura parlé, de prendre contact peut-être avec la victime et de l'amener elle-même à prendre conscience, etc. Parce que, comme vous le dites à juste titre, parfois, c'est difficile pour une victime de prendre conscience qu'elle est vraiment en danger ou même parfois que ce qu'elle vit est anormal.
Absolument. Voilà. Tout donc, à fait, c'est ce qu'on voit malheureusement dans les faits divers. Jacqueline Voraz parlait des pôles spécialisés, et on voit malheureusement, je reviens sur les faits divers, là, le mois de février a été terrible d'un point de vue médiatique. On a entendu énormément d'affaires avec des jeunes femmes qui ont été massacrées par d'ex-conjoints qui sortaient de prison. Et la question qui revient toujours... C'est la question ensuite de l'application des peines et le suivi. On sait qu'il y a eu beaucoup de marches blanches. Aujourd'hui, est-ce que le PAC, Nouveau Départ, a vocation à couvrir, avoir une durée limitée ? Est-ce qu'il est, j'avais envie de dire, parallèle à la peine que pourrait suivre ou subir le conjoint ou époux violent ? Je pense qu'au niveau du suivi, il y a une question qui se pose sur après.
Oui, je pense qu'on n'est pas effectivement, on n'est pas sur le même plan. Je pense que le PAC, c'est un dispositif de protection, mais presque de prévention. C'est-à-dire que il n'est pas du tout conditionné à la plainte, etc.
Très bien.
Donc c'est vraiment, il peut arriver, il peut exister, même s'il n'y a pas eu de passage à l'acte physique. Voilà.
Absolument.
Quand on parle d'application de la peine, ça veut dire que justement, il y a eu plainte, instruction, enfin, condamnation et puis exécution d'une peine. Voilà. Et là, on est sur un autre registre sur lequel nous travaillons aussi, hein, même si effectivement, voilà, quand on a des cas comme ça, absolument, on est forcément
on arrive toujours trop
choqué.
Tard.
Voilà. Mais on peut dire quand même que la notion de nécessité de prise en charge de la violence des auteurs, je pense qu'elle a bien émergé aussi là, dans le débat politique, médiatique. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on a pris conscience, enfin, la société a pris conscience qu'on ne pouvait pas protéger efficacement les victimes si on ne faisait pas de la prévention de la récidive.
Tout à fait.
Et faire de la prévention de la récidive, ça veut dire prendre en charge la violence des auteurs. Moi, quand j'étais présidente de cour d'assises, j'allais dire presque tous les accusés de meurtre sur leur conjointe avaient des condamnations précédentes pour des faits commis sur leur compagne précédente. Ce qui signifie bien chez ces personnes-là qu'il y a un problème intrinsèque de violence et qu'il faut traiter. Donc ça, je pense qu'on en a pris conscience. Les choses se mettent en place au niveau de la justice avec des obligations de soins, des suivis renforcés. Nous avons aussi ouvert, et c'est mon ministère qui en a la charge, 30 centres de prise en charge des auteurs, voilà, pour aussi traiter de cette violence. Et puis aussi, nous avons aussi progressé puisqu'un décret aussi prévoit maintenant que lorsqu'un détenu, donc à la fin de sa peine, va sortir, eh bien, l'autorité judiciaire doit prévenir une association d'aide aux victimes pour éventuellement octroyer un téléphone grave danger à la victime s'il paraît qu'il peut y avoir une situation de danger. Donc les choses évoluent. Je pense que la volonté politique, elle est réelle. Les pratiques évoluent, les professionnels progressent. Mais voilà, il faut toujours continuer, toujours aller plus loin. Et je pense que ces violences nous appellent à beaucoup d'humilité, mais aussi de ténacité.
Oui, on a bien compris que c'était un chantier colossal, hein, pour tenter d'endiguer ce fléau. Et on vous remercie de tout ce travail que vous effectuez en faveur des victimes. Merci infiniment, Madame la Ministre Isabelle Rome, je le rappelle, déléguée auprès de la Première Ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité, de l'égalité des chances. Merci beaucoup pour cet entretien très éclairant et que nous diffuserons dans quelques jours sur notre antenne IDFM Radio.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci, Madame. Donc, Jacqueline Vouraz et Alexandre Buicange au micro de IDFM Radio. C'est l'économie en direct, ce matin en présence de Madame Émilie Chandler, députée de la première circonscription du Val-d'Oise, pour une édition spéciale avec l'interview exclusive de Madame la ministre Isabelle Rome, je le rappelle, déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la députée, je peux vous appeler Émilie ?
Bien sûr.
Merci Émilie. Donc j'ai eu le plaisir de vous accueillir sur ce plateau le 17 juin 2022 dans l'entre-deux-tours de ces élections législatives. Vous étiez alors candidate officielle de la majorité présidentielle, qualifiée au deuxième tour de ces législatives pour la première circonscription du Val-d'Oise qui est la vôtre désormais. Une circonscription qui regroupe l'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marine, Pontoise. Des élections que vous avez bien évidemment remportées. Et pour rappel, j'ajouterai que vous êtes avocate en droit de la santé et du dommage corporel depuis 12 ans, que depuis votre élection, vous avez été nommée vice-présidente du groupe d'études violences intrafamiliales, que vous travaillez sans relâche dans les missions qui sont les vôtres, dont celle précisément qui consiste à lutter efficacement contre ce fléau, toute forme de violence intrafamiliale, mais aussi améliorer la prise en charge les prises en charge judiciaires, et ce en lien étroit avec les acteurs du terrain afin de formuler des propositions ambitieuses et concrètes.
Madame la députée, alors c'est un plaisir de vous avoir à cette antenne, puisqu'en plus vous êtes une jeune députée. Quel bilan vous faites déjà sur les 10 mois, 11 mois d'activité que vous avez sur le département ?
Alors d'abord, merci de me recevoir. Le bilan sur ces premiers mois à l'Assemblée nationale, c'est la nécessité d'être bien organisé, parce qu'il faut ne jamais oublier qu'on est député aussi pour son territoire, et donc le temps doit se partager entre la présence dans l'hémicycle où on vote les lois, où on prépare les travaux en commission, mais également celui du terrain où on va à la rencontre des habitants et des élus pour remonter finalement les problématiques, parce que l'essentiel, c'est quand même de travailler à changer pour améliorer la vie des gens.
Et alors surtout, votre travail, j'ai envie de dire, est abondant. J'ai vu votre présence à l'Assemblée nationale qui est importante. J'ai même vu que vous aviez posé vos premières questions. Je crois que c'était en mars dernier. Mais ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de vos missions, c'est surtout dans la mesure où vous êtes député d'un département qui est pilote en matière de violence intrafamiliale et sur le pacte Nouveau Départ. Aujourd'hui, concrètement, ça fait un mois et demi, deux mois que l'annonce a été faite sur le pacte Nouveau Départ. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience? Est-ce qu'il y a déjà des mises en place, des choses qui ont été mises en place sur le territoire pour ce pacte Nouveau Départ?
Alors, le pacte Nouveau Départ a été effectivement mis en place le 8 mars dans le Val d'Oise, hein, département pilote. Donc j'étais personnellement très honorée que ce département soit choisi pour cette initiative. Je n'ai pas encore les chiffres puisque le bilan va se faire à 3 mois. Donc on va bientôt les avoir, on va bientôt avoir un retour d'expérience, un rétex comme on dit, qui nous permettra de voir comment les choses peuvent être encore améliorées, comment on peut aller plus loin. Alors il y a d'autres endroits de France où il y a un déploiement en cours, La Réunion et les Bouches-du-Rhône depuis ce matin. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se généraliser sur l'ensemble du territoire avec pour objectif d'améliorer la situation des femmes et des hommes victimes de violences intrafamiliales qui décident de lancer la procédure.
Concrètement, sur la mise en place de la procédure, Madame la Ministre évoquait le déploiement autour de la CAF. Est-ce que c'est effectivement le pivot qui est choisi comme, j'ai envie de dire, centre d'urgence pour le déploiement du PAC?
Alors, le déploiement du PAC, c'est une chose, mais c'est pas finalement le PAC qui va lancer la procédure. Donc, on a tout l'aspect aide d'urgence pour permettre à la victime de sortir de la situation dans laquelle elle se trouve et des violences dans lesquelles elle se trouve. Mais derrière, il va y avoir la nécessité d'un accompagnement. Ça va être d'abord un accompagnement associatif, parce qu'on le sait, les associations font un travail formidable sur le terrain. Et puis, un accompagnement par les gendarmes et la police lorsqu'elle va décider d'aller porter plainte. Et là, c'est ce que moi j'appelle le dernier kilomètre. On peut aussi parler du premier kilomètre. Mais c'est là où finalement la procédure va s'enclencher et là où il va y avoir des mesures de protection judiciaire qui vont pouvoir se mettre en place pour la protéger, protéger sa famille et lui permettre d'avancer. Donc la CAF pour le PAC Nouveau Départ, mais derrière toute l'amélioration du traitement judiciaire de la situation, sans jamais oublier que une victime sur deux retombe dans le spectre de la violence, même en changeant de conjoint, et que le taux de récidive des auteurs est également d'un sur deux. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai accompagnement psychologique à faire pour les victimes, mais aussi accompagner les auteurs pour qu'ils ne recommencent plus après avoir été sanctionnés. Donc, c'est vraiment un travail colossal. Donc, le PAC Nouveau Départ, c'est essentiel, mais tout le reste doit suivre, et en tout cas, les victimes ne doivent plus avoir peur de parler.
Émilie Chandler, vous venez d'expliquer la rapidité à laquelle il fallait agir, hein, malgré tout. Et un de vos premiers constats, justement, c'est la circulation d'informations.
La circulation de l'information, c'est quelque chose d'essentiel dans cette procédure, ou même dans ce sujet, parce qu'on se rend compte dans les derniers drames qu'on a rencontrés, oui, que finalement, il y avait des indices. Il y avait des choses qui pouvaient nous faire un petit peu anticiper. Alors, il y aura toujours le cas qu'on n'a pas anticipé parce qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Mais dans la plupart, il y a eu soit une plainte classée, soit une plainte non traitée, soit des associations qui avaient identifier des difficultés, soit à l'école qui avait remonté une petite problématique et qui a pas été suivie. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des auditions qu'on a menées dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par Madame la Première Ministre, que certaines juridictions avaient mis en place des expérimentations qui portaient leurs fruits. Alors c'est le cas de Pontoise, le cas de Nantes, le cas de Châlons en Champagne, où finalement on va avoir des acteurs qui vont se mettre autour de la table dans le cadre d'une instance qui n'est pas décisionnaire, mais qui est simplement une instance où on va partager l'information avec des magistrats, des associations et différents acteurs. Et là, on va pouvoir comprendre d'une part les enjeux et les difficultés des personnes pour lesquelles il y a des dispositifs en place, mais on va pouvoir aussi agir en se disant là il faut qu'on fasse quelque chose ou là il faut qu'on regarde plus attentivement parce qu'il y a un doute, il y a quelque chose, il y a un premier signal, un bas bruit qu'on doit anticiper davantage. Et donc la circulation de l'information, c'est permettre aux interlocuteurs de se parler entre eux. Alors ça fonctionne très bien en Espagne, même si le modèle est un peu différent, mais on se rend compte que c'est le premier élément qui va nous permettre de mettre toutes ces femmes et ces enfants à l'abri des violences.
Oui, vous citez l'Espagne. C'est vrai que ce pays est souvent cité en exemple hein, au niveau de cette lutte contre les violences. Il est quand même toujours ajouté qu'il bénéficie d'un gros budget pour lutter contre ces violences. Qu'en serait-il en France ?
Alors, d'abord l'Espagne, ensuite le budget, parce que je pense que c'est deux choses qui sont bien distinctes.
Oui.
Moi, je suis allée en Espagne pour justement analyser leur dispositif, qui sur le papier est très vendeur, mais en pratique est très compliqué. C'est la réglementation, la loi a changé il y a une vingtaine d'années. Ils ont effectivement mis énormément d'argent, et sur tout ce qui concerne la circulation de l'information, effectivement. Il faut s'en inspirer, également sur les mesures d'urgence. En revanche, c'est une justice qui est genrée, c'est-à-dire que les couples homosexuels ne peuvent pas être traités par ces juridictions spécialisées, ce qui pose un vrai problème, mais on a au-delà de ça un autre problème qui est le délai de traitement des dossiers. Où moi j'ai assisté à des audiences où c'était des faits d'une banalité déconcertante malheureusement, où on avait des délais d'audiencement et de jugement donc de 4 ans. Donc en France, meilleur sur ça. Donc c'est un système qui fonctionne en Espagne mais qui n'est pas transposable. En revanche, ça montre qu'il y a des améliorations à donner à notre système et ça c'est extrêmement important parce que le deuxième point, c'est le budget. Cette amélioration du traitement judiciaire, elle ne pourra pas se faire sans moyens supplémentaires. Je ne cesse de le rappeler aux gardes des Sceaux et à tous les ministres concernés. Il faut des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers, mais dans le cadre du projet de loi de justice et des annonces qui ont été faites par le garde des Sceaux, on nous a annoncé 1500 magistrats supplémentaires. Donc sur 5 ans, le calcul est assez simple.
Oui.
1500 sur 5 ans, ça fait 300 par an. On a 100 départements. On peut espérer qu'il y en ait au moins un par an en plus par département pour les violences intrafamiliales. J'attends de voir. En tout cas, moi j'ai fait cette proposition de calcul simple, mais il faut très clairement des moyens supplémentaires.
Des moyens supplémentaires et en plus la question que j'allais sur laquelle j'allais rebondir, c'est sur la formation et surtout sur l'accueil des victimes, parce que encore trop souvent on se retrouve avec ce constat de personnes qui veulent déposer plainte pour des violences et la plainte n'est pas prise et la personne ne repart chez elle. Ça a donné lieu à quelques drames, malheureusement, ces derniers temps, qui ont pu défrayer la chronique et qui ont encore alerté sur le traitement et la parole de la victime en matière de violence conjugale.
C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre cela. Ça passe par la formation, ça passe par un engagement humain et par une volonté politique. C'est insupportable d'entendre qu'une femme est décédée alors qu'elle avait déposé une plainte ou au moins une main courante ou au moins passé la porte du commissariat ou au moins appelé pour avoir des informations et qu'il n'y a pas eu de suite. Pour moi, c'est insupportable. C'est innommable de se dire qu'on aurait pu éviter un drame. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut plus de formation. Il y a déjà beaucoup de formation dans un peu toutes les professions concernées de près ou de loin par les violences intrafamiliales, mais sont des formations qui ne se parlent pas forcément. Donc le corps médical et le corps judiciaire se parlent pas forcément, les associations c'est la même chose, donc maintenant il faut qu'il y ait des formations communes et des montées en compétences. Et puis moi j'ai envie de dire, la plainte elle doit être prise de manière automatique. Et c'est la raison pour laquelle, et je vous livre une des pistes de réflexion, donc une des recommandations, moi je comme vous avez dû le voir, soir, l'avocat est autorisé pour accompagner la victime lors du dépôt de plainte. Moi, je pense qu'on pourra aller plus loin. Alors, je ne suis pas la tenante du budget. Néanmoins, je pense que si demain, on prévoit que l'aide juridictionnelle pourrait être accordée à la personne, quelles que soient ses ressources, pour être accompagné par un avocat dès le dépôt de plainte, ça veut dire un accompagnement dès le début de la procédure. Et là, notre victime, elle est prise en charge par un professionnel. Alors, je suis avocat, vous me direz, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui est ressorti pour justement éviter qu'il y ait des plaintes qui ne soient pas prises.
Et ça paraît normal puisque l'avocat est le premier défenseur de la parole des victimes.
Voilà.
Je vais proposer une pause, puisque nous avons fait une pause avec Madame la Ministre. Nous ferons une pause avec Madame la députée. Et comme pour Madame la Ministre...
Voilà, Alexandre a une proposition à vous faire, Émilie Chandler.
C'est une proposition tout à fait honnête. Hein. Je sais à qui je m'adresse. On ne fait pas n'importe quoi. Madame la députée, quelle chanson souhaiteriez-vous écouter? Puisque je sais que vous êtes une fine mélomane également. Donc, quelle chanson souhaiteriez-vous écouter dans le cadre de cette émission?
Alors, je voudrais écouter « Respire » de Clara Luciani, que j'écoute à peu près tous les jours dans ma voiture.
Eh bien, écoutez, nous allons écouter une fois de plus, cette fois-ci pas dans votre voiture, mais à la radio.
Il faut que ça tremble, il faut que ça transpire.
Jacqueline Voraz et Alexandre Buicange au micro de Radio IDFM. C'est toujours l'économie en direct. Ce matin, en présence de Madame Émilie Chandler, députée de la première circonscription du Val d'Oise, pour une édition spéciale dans laquelle nous venons d'écouter l'interview exclusive de Madame la ministre Isabelle Rome, déléguée auprès de la première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité, de l'égalité des chances. Une interview relative aux dispositifs contre les violences intrafamiliales mises en place dans le Val d'Oise à titre expérimental. Madame Émilie Chandler, la première ministre Elisabeth Borne avait annoncé la mise en place de pôles spécialisés dans ces violences conjugales au sein des tribunaux afin de répondre aux problématiques vécues par les femmes victimes. Alors, s'agira-t-il de juridictions spécialisées? Et si oui, qu'entend-on par juridiction spécialisée?
Alors, vous posez la bonne question. Est-ce qu'il va s'agir de juridiction spécialisée ou de pôle spécialisé?
Oui.
C'est quelque chose de très différent. Une juridiction spécialisée, ça voudrait dire un nouveau tribunal, alors à imaginer comme un nouvel endroit où le juge irait statuer avec des nouveaux bâtiments, tout serait à créer. C'est un peu trop compliqué en 2023 et après six mois de mission, je peux vous dire qu'il y a une autre proposition qui sera beaucoup plus rapide à mettre en place, parce que je crois qu'il y a une véritable urgence à changer les choses, c'est la création d'un pôle des violences intrafamiliales au sein de chaque juridiction. Alors, au sein de chaque juridiction, ça veut dire dans tous les tribunaux judiciaires de première instance, mais également en cause d'appel. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir, donc moi je préconise d'aller plus loin que la première instance et d'aller aussi sur le terrain de l'appel. Alors, à l'intérieur de ça, on aurait des parquetiers spécialisés, et également une spécialisation concernant les juges du siège avec pour objectif de réunir au sein donc de cette chambre spécialisée en matière de violence intrafamiliale, la chambre des vifs, réunir des magistrats non statutairement non spécialisés, mais des juges des enfants, des juges d'application des peines, des juges aux affaires familiales, des juges correctionnels, et pour pouvoir traiter des problématiques qui tournent autour finalement du foyer au sein duquel il y a une problématique de violence intrafamiliale et qui sera en capacité de prendre des décisions dans divers univers plutôt que de fonctionner en silo comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça rejoint le sujet de la circularisation de l'information,
oui,
et de pourquoi on doit savoir que dans tel foyer il y a une difficulté de violence parce que derrière il y a un divorce qui doit être prononcé et donc avoir tous le même niveau d'information. Pour ça, on doit aussi avoir la création d'une véritable équipe autour du juge avec des moyens supplémentaires et des juristes assistants, ce qu'on appelle les futurs attachés de justice, comme ils ont été appelés récemment. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait ces chevilles ouvrières qui pourront préparer les dossiers, comme c'est le cas notamment à Bobigny, où ça fonctionne plutôt bien. Avec, à l'intérieur donc, de ces spécialisé, la mise en place de comités de pilotage, dont vous parliez de circulation d'informations, j'y reviens, ça serait à l'intérieur de ce qu'on appelle les copiles, et ça fonctionne très bien à Nantes notamment, où les différents acteurs se mettent autour de la table pour réfléchir aux situations dans un cadre non décisionnaire, mais quand le dossier arrivera devant un magistrat ou le magistrat devra prendre une décision, il aura une vision la plus précise possible de ce qui se passe à l'intérieur de la famille, parce que quand on ferme la porte d'un foyer, la difficulté c'est qu'on ne sait pas ce qui s'y passe.
Bien
et donc
sûr.
Il faut protéger les femmes, protéger les enfants, protéger les plus fragiles avec la création de ces pôles et donc ils pourront être mis en place dès que les dispositions réglementaires ou légales auront été validées.
C'est ça, c'est environ quelques 200 pôles hein, qui devraient être créés au sein des 164 tribunaux judiciaires.
En tout cas, au moins un par tribunal et un par cour d'appel. Avec une autre précision, la création d'un dossier unique, justement, pour concentrer cette information en un même lieu, pour que un magistrat qui change d'un endroit donné, son successeur, ait accès au même niveau d'information.
C'est ça.
À mon sens, c'est la clé.
Des informations croisées qui peuvent être récupérées à tout moment.
Exactement.
J'ai une question de praticien, puisque effectivement aujourd'hui, depuis que les violences conjugales sont devenues, j'ai envie de dire, enfin la lutte, sont devenues une cause nationale, est-ce qu'on va enfin arrêter d'avoir des audiences où on va mêler les problèmes de paiement des pensions alimentaires et des violences sans ITT de moins d'un jour, alors que en général on sait très bien que dans ces audiences on a des personnes, des victimes qui ont même du mal à s'exprimer à l'audience et qui sont même prêtes parfois, puisqu'on on le voit, à retirer leur plainte en cours d'audience.
Alors le temps de l'audience pour moi est un temps sacré. C'est un temps sacré où la victime est parfois, à mon sens, pas suffisamment considérée. Surtout quand elle arrive seule devant un tribunal. Parfois, c'est la première fois de sa vie où elle arrive devant un magistrat qui est en robe, avec un parquetier en robe, avec un greffier en robe, avec des avocats. Et elle, elle est perdue. Donc forcément, elle va se retrouver à nouveau dans un temps de sidération où elle va pas être en capacité de s'exprimer. Donc l'idée, c'est d'avoir des pôles spécialisés avec des magistrats spécialement formés qui auront cette vision globale de la situation. Après, sur l'organisation interne, sur les audiencements, reviendra à chaque magistrat d'organiser son rôle, ce qu'on appelle, pour expliquer ce qu'est le rôle de l'audience, c'est la liste des dossiers qui seront présentés. Mais l'idée, c'est de faire, de regrouper finalement les dossiers de violence sur une même plage horaire, avec aussi l'effet salutaire que ça peut avoir pour les auteurs, parce qu'on a auditionné des auteurs dans le cadre de la mission et que certains disaient que ce qu'ils avaient entendu en audience les avait aidés à comprendre pourquoi ce qu'ils avaient fait c'était mal. Et donc je pense que je fais partie de ceux qui pensent que le temps d'audience est un temps essentiel où la victime doit avoir toute sa place.
Je sais que vous faites beaucoup de droits des victimes, donc je sais que c'est quelque chose qui, dans votre carrière professionnelle d'avocate, donc je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. À titre personnel, ça en dit long aussi sur la façon dont on a aussi traité les victimes dans le temps judiciaire depuis des années, d'une certaine façon. Mais ça, c'est une critique personnelle. Et enfin, j'ai envie de dire, la victime a droit de citer, a droit d'être défendu et enfin prise comme acteur central de l'audience. Mon autre interrogation, c'est sur l'application des peines. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure et on l'a évoqué avec Madame la Ministre. On voit bien que vous parliez d'un instant de sidération. L'auteur comprend sur le moment, mais ensuite, un an, deux ans passent. L'auteur va sortir de détention s'il était placé en détention ou à la fin d'un éloignement. Enfin bon, à un moment, il y a un contact qui risque. Enfin, il y aura peut-être encore un contact, surtout s'il y a des enfants. J'ai envie de dire, Madame la députée, et après,
c'est tout l'enjeu. Il aurait fallu que j'ai 6 mois de plus de mission pour pouvoir traiter le sujet des auteurs. J'avais prévu de prévoir un temps plus conséquent au sujet des auteurs que celui que je n'ai pu y consacrer. Il n'empêche, une fois qu'on a dit ça, il faut avancer. Les auteurs, en réalité, sont aujourd'hui parfois considérés comme occupant plus d'espace que les victimes dans ce traitement du traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Alors que certes, on octroie des moyens à leur prise en charge, mais il y a toujours des choses à améliorer. Et il faut, à mon sens, s'inspirer du modèle québécois, par exemple, qui accompagne les auteurs au moment où la peine est prononcée, même s'il y a une incarcération ou pas. Vous avez des groupes de parole, vous avez des échanges, vous avez un traitement psychologique qui est mis en place et on ne va pas laisser finalement l'auteur purger sa peine et puis demain il sort et il a interdiction d'approcher son ancienne compagne. L'idée, ce n'est pas là. L'idée, c'est de lui faire comprendre pour qu'il ne recommence pas. Parce que s'il sort et que le sujet n'a pas été réglé pour lui en son fort intérieur finalement, il recommencera avec une autre personne. C'est une mécanique de la violence. Et la Civise, dans ses rapports, présente ça de manière très précise et explique comment la violence naît dans l'esprit d'un jeune. Et on voit que si on ne rompt pas le cycle de la violence, il recommencera. Et ça passe par une prise en charge aussi des auteurs autres que l'incarcération. Donc le traitement des auteurs, évidemment, mais on pourrait en parler des heures.
Ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle mission parlementaire.
J'ai soufflé l'idée au garde des Sceaux.
Eh bien, on la ressouffle ici parce que je pense que c'est essentiel.
Émilie Chandler, Madame la députée, y a-t-il une question qu'on ne vous a pas posée et à laquelle vous auriez souhaité répondre ?
Une question, non, vous dire et vous rappeler mon engagement sur ce sujet-là et aussi l'engagement sur le terrain, parce que bon, réfléchir à des nouvelles recommandations, c'est bien. Réussir à changer les choses en modifiant les textes, c'est encore mieux. Mais pouvoir constater qu'il y a beaucoup moins de victimes au sein des foyers, que ce soit les majeurs, mais surtout les enfants, ça sera encore mieux. Donc j'ai envie de vous dire, on refait un petit bilan rapidement.
Très bien, bah écoutez, volontiers. Avant de nous quitter, quelques mots sur vos autres missions au sein de l'Assemblée nationale.
Alors, en quelques mots, moi je
ou
siège,
plus, hein.
ou plus, moi je siège à la commission des lois, donc c'est évidemment passionnant, et je suis également au sein de la délégation droits des femmes, égalité hommes-femmes, donc le croisement des deux fait que mon engagement personnel quand j'étais avocat finalement permet de s'épanouir, puisque on est dans la création du droit, dans une volonté d'égalité, et moi ça me va bien. Vous dire aussi que être députée, c'est quelque chose de formidable, parce que on sait que à nous tous les députés, si on vote la bonne mesure, ça va changer la vie des gens. Et oui, pour moi, ça c'est essentiel, quels que soient les partis. Finalement, ce qui compte, c'est le sens premier de la politique et ce qu'on fait pour l'autre. Et c'est pas des paroles en l'air pour ceux qui me connaissent. Et donc, voilà, l'idée, c'est de changer les choses et ensuite de voir comment ça se concrétise et voir comment on peut faire encore mieux. Et vous dire aussi que je suis encore avocat, comme je savais, voilà, que vous alliez me poser,
oui,
la question.
Oui.
Donc ça, c'est ma troisième casquette. Encore avocat. C'est pas toujours évident de tout concilier. Il y a la notion de conflit d'intérêts, évidemment, puis la notion de continuer à bien traiter ces dossiers. Mais ça permet aussi d'avoir les pieds sur terre et de ne pas oublier la réalité de cette belle profession d'entrepreneur aussi, avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Donc ça me permet finalement d'avoir encore un regard très précis à la fois sur l'entrepreneuriat, sur le métier d'avocat, la justice au quotidien et puis comment on change le droit.
Bien sûr. Et un engagement, j'ai envie de dire, qui vient dans le prolongement de celui dont vous nous aviez parlé lorsque vous étiez encore candidate. En tant qu'avocate, vous aviez défendu une cause, j'avoue ne plus me souvenir de laquelle, mais je savais que vous étiez très impliquée et que vous vous sentiez tout à fait prête à gérer cette position de députée.
Ah mais moi j'ai toujours une cause à défendre, hein. J'ai toujours un combat, et puis tant qu'on n'a pas réussi, on continue. Donc oui, là il y a
vous êtes opiniâtre
un peu, mais pas seul, c'est-à-dire que je pense qu'on peut vraiment changer les choses ensemble, parce que seul finalement on fait pas grand chose, et là il devrait y avoir de la concrétisation de certaines de mes actions dans les mois à venir au niveau du territoire. Je peux pas vous en dire plus parce que j'attends encore les documents officiels des ministères qui s'engagent sur les projets que j'ai portés. Ça ne devrait plus tarder, mais en tout cas je vous en dirai plus prochainement.
Voilà, bah je voulais vous demander quelles sont vos prochaines missions, mais vous reviendrez pour nous en parler alors.
Avec plaisir.
C'est la fin de cette édition spéciale de l'économie en direct. Encore merci infiniment, Madame la députée Émilie Chandler, d'avoir rendu concret cette interview sur IDFM Radio de Madame la ministre Isabelle Rome. Merci pour tout le travail effectué en faveur des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, ce chantier colossal qui mérite toute notre attention.
Merci beaucoup, Madame la députée. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour la radio aussi, puisque c'est grâce à vous que nous avons pu rencontrer Madame Rome. Donc, à nouveau, merci. Et puis, vous serez avec plaisir de vous réinterviewer pour... Il y a encore 4 ans, hein. Il y a encore 4 ans de députation. Allez, il faut travailler, Madame la députée. Allez.
Alors, à bientôt.
À très bientôt.
C'est la fin de cette émission. Merci, Alexandre, pour votre présence à mes côtés.
Et c'est un plaisir.
Alexandre, on peut peut-être rappeler le nom de votre émission et son jour et horaire de diffusion.
Alors, j'anime l'émission Demain tout ira mieux, c'est le mardi soir à 21h avec une équipe, il y a quelques avocats mais qui écrivent d'autres choses à côté, et c'est ce que je fais habituellement.
Eh bien, merci Alexandre, on vous écoutera d'autant plus que nous connaissons maintenant le thème et les horaires. Merci à vous tous qui nous suivez pour votre fidélité. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Une émission que vous pourrez retrouver à tout moment avec son podcast sur idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée, prenez soin de vous et de vos proches.
Thank you. souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Quel monde on vous laissera. On fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui.
Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'île de France.
Para onde? gone. You are everything I want. Me and you, all night long. That's all my song.
Amor, yo no te quiero ver partir. Todo loco por ti, no voy a fingir. Fingir que no siento nada por ti.
Give it, baby, lead, I follow. Make I give you love, only low, low. All the this kind of love, in no deny.
Nunca te voy a dejar, no.
Che viene dal mare dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi.
Todo tiene música si está
solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada è una canzone, por las calles las canciones.
Un día dura apenas un momento,
un momento.
Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo.
Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi. È tutta un'altra musica con lei.
No, no.
Solo si está,
no importa lluvia o viento. Lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va.
Per le strade una canzone,
una canción.
Por las calles las canciones.
Notti che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere,
para vivir. Por ella sé que hoy los amores comenzarán y las guitarras van a tocar.
Sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà.
Quando stiamo junto siento che sto in casa in cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione,
iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones. Por las calles las canciones.
Per le strade una canzone.
Esta canción,
hey. Italia y Puerto Rico,
dame, dame
una canción,
hermanito.
Por las calles, las canciones.
Italia, Puerto Rico,
yeah, yeah, yeah. No, no, no.
Juntos.
Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. God damn, it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, oh.
Am I ready? Supposed to love somebody else when I don't like myself. Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, cause you know I've been through.
Am I ready?
To be loved.
me know.
Mais l'automne est précoce, je la reconnais bien là. La ville qui se mérite, qui se gagne à la sueur. La cité interdite aux misérables imposteurs. Mouillée jusqu'à l'os, du soir jusqu'au matin, le bitume brille comme du gloss sous ce putain de crachin. Mais à trop vouloir médire celui qui ne l'aime pas finira par subir les noires colères du Nord-Roi. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie, avant que reste même. Jusqu'à l'os, on a beau raconter qu'on a bien roulé nos bosses, mieux vaut ne pas se la ramener. Si les bras sont fermés à tes charmantes effusions, c'est pour mieux t'enlacer à la prochaine saison. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie, avant que reste même. Mouillé jusqu'à l'os, c'est pas non plus le déluge. On s'amuse comme les gosses dans quelques lieux hydrofuges, à refaire le monde avec d'imparfaits inconnus. Ce soir on fait la bombe et on dansera dans les rues. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie, avant que reste même.
Le restaurant L'Aérodrome vous accueille du mardi midi au dimanche midi et le vendredi et samedi soir avec soirée à thème et soirée dansante lounge club à partir de 22h. Possibilité de privatisation pour vos fêtes d'anniversaire, baptême, mariage ou repas d'affaires. Restaurant L'Aérodrome, rue du Moutier à Moisselle, une cuisine traditionnelle et fête maison. Rendez-vous sur Instagram pour suivre l'actualité des événements.